Exode 12. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, disant, « Ce mois-ci sera pour vous le commencement des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël, disant, « Au dixième jour de ce mois, vous prendrez chacun un agneau par maison de père, un agneau par maison. » Et si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, que lui et son voisin le plus rapproché de sa maison le prennent, selon le nombre des âmes. Vous compterez pour l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Vous aurez un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous le prendrez d'entre les moutons ou d'entre les chèvres, et vous le tiendrez en garde jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute la congrégation de l'assemblée d'Israël l'égorgera entre les deux soirs. Et ils prendront de son sang et en mettront sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte, aux maisons dans lesquelles ils le mangeront. Et ils en mangeront la chair cette nuit-là. Ils la mangeront rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous n'en mangerez pas qui soit à demi cuit ou qui ait été cuit dans l'eau, mais rôti au feu, la tête et les jambes et l'intérieur. Et vous n'en laisserez rien de reste jusqu'au matin. Ce qui en resterait jusqu'au matin, vous le brûlerez au feu. Et vous le mangerez ainsi, vos reins sains, vos sandales à vos pieds et votre bâton en votre main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Et je passerai par le pays d'Égypte cette nuit-là, et je frapperai tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis l'homme jusqu'aux bêtes, et j'exercerai des jugements sur tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Et le sang vous sera pour signe sur les maisons où vous serez, et je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie à destruction au milieu de vous, quand je frapperai le pays d'Égypte. Et ce jour-là vous sera en mémorial, et vous le célébrerez comme une fête à l'Éternel. Vous le célébrerez en vos générations comme un statut perpétuel. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, vous ôterez le levain de vos maisons, car quiconque mangera du pain levé du premier jour au 7e jour, cette âme-là sera retranchée d'Israël. Et le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le 7e jour, une sainte convocation. Il ne se fera aucune œuvre en ces jours-là. Seulement ce que chacun mangera, cela seul se fera par vous. Et vous garderez la fête des pains sans levain, car en ce même jour, j'ai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Et vous garderez ce jour-là en vos générations comme un statut perpétuel. Le premier mois, le 14e jour du mois au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au 21e jour du mois au soir. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car quiconque mangera de ce qui est levé, cette âme-là sera retranchée de l'assemblée d'Israël, étranger ou israélite de naissance. Vous ne mangerez rien de levé. Dans toutes vos habitations, vous mangerez des pains sans levain. Et Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, tirez à part et prenez du menu bétail selon vos familles et égorgez la Pâque. Et vous prendrez un bouquet d'hysope et vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin. Et du sang qui sera dans le bassin, vous aspergerez le linteau et les deux poteaux. Et nul d'entre vous ne sortira de la porte de sa maison jusqu'au matin. Car l'Éternel passera pour frapper les Égyptiens et il verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux. Et l'Éternel passera par-dessus la porte et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Et vous garderez cela comme un statut pour toi et pour tes enfants à toujours. Et lorsque vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, comme il l'a dit, il arrivera que vous garderez ce service. Et quand vos enfants vous diront que signifie pour vous ce service, il arrivera que vous direz c'est le sacrifice de la Pâque à l'Éternel, qui passa par-dessus les maisons des fils d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa les Égyptiens et qu'il préserva nos maisons. Et le peuple s'inclina et ils se prosternèrent. Et les fils d'Israël s'en allèrent et firent comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Et il arriva au milieu de la nuit que l'Éternel frappa tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né du Pharaon qui était assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif qui était dans la maison de la fosse, et tout premier-né des bêtes. Et le Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et toute l'Égypte. Et il y eut un grand cri en Égypte, car il n'y avait pas de maison où il n'y eût un mort. Et il appela Moïse et Aaron de nuit et dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, tant vous que les fils d'Israël, et allez-vous-en, servez l'Éternel comme vous l'avez dit, prenez votre menu bétail et votre gros bétail comme vous l'avez dit, et allez-vous-en et bénissez-moi aussi. » Et les Égyptiens pressaient le peuple pour le renvoyer du pays en hâte, car ils disaient, « Nous sommes tous morts. » Et le peuple prit sa pâte avant qu'elle fût levée, ayant leurs huches liées dans leurs vêtements sur leurs épaules. Et les fils d'Israël firent selon la parole de Moïse, et demandèrent aux Égyptiens des objets d'argent et des objets d'or et des vêtements. Et l'Éternel fit que le peuple trouva faveur aux yeux des Égyptiens qui accordèrent leurs demandes, et ils dépouillèrent les Égyptiens. Et les fils d'Israël partirent de Ramsès pour Succoth, environ 600 000 hommes de pied, les hommes faits sans les petits-enfants. Et aussi un grand amas de gens monta avec eux, et du menu et du gros bétail, des troupeaux en très grand nombre. Et ils cuisirent en gâteau sans levain la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte, car elle n'avait pas levé parce qu'ils avaient été chassés d'Égypte et n'avaient pu tarder. Ils ne s'étaient pas fait non plus de provisions. Et l'habitation des fils d'Israël qui avaient habité en Égypte fut de 430 ans. Et il arriva au bout de 430 ans, il arriva en ce même jour que toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. C'est une nuit à garder pour l'Éternel, parce qu'il les a fait sortir du pays d'Égypte. Cette nuit-là est à garder pour l'Éternel, par tous les fils d'Israël en leur génération. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, c'est ici le statut de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera, mais tout esclave, homme acheté à prix d'argent, tu le circonciras, alors il en mangera. L'habitant et l'homme à gage n'en mangeront point. Elle sera mangée dans une même maison. Tu n'emporteras point de sa chair hors de la maison, et vous n'en casserez pas un os. Toute l'assemblée d'Israël la fera. Et si un étranger séjourne chez toi et veut faire la Pâque à l'Éternel, que tout mâle qui est à lui soit circoncis, et alors il s'approchera pour la faire et sera comme l'Israélite de naissance. Mais aucun incirconcis n'en mangera. Il y aura une même loi pour l'Israélite de naissance et pour l'étranger qui séjourne parmi vous. Et tous les fils d'Israël firent comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Et il arriva en ce même jour que l'Éternel fit sortir les fils d'Israël du pays d'Égypte selon leurs armées. Cette portion de l'Écriture, bien connue de chacun, nous pensons, nous relate donc un des trois fêtes qui a particulièrement marqué le peuple d'Israël. Le premier, donc, c'est ce que nous trouvons ici, la Pâque. Cette nuit dans laquelle l'ange de l'Éternel allait passer pour accomplir ce jugement sur l'Égypte. Qui, nous le savons, par celui qui en était le chef, le Pharaon, n'avait pas voulu laisser partir, ne voulait pas laisser partir le peuple de l'Éternel, selon que l'Éternel lui avait demandé, afin qu'il le serve. Et ce jugement qui nous parle en effet de ce que la gloire de Dieu exige vis-à-vis du péché, s'il devait atteindre les Égyptiens, devait de la même manière atteindre aussi les Israélites. car tous étaient, comme tous nous sommes, des enfants d'Adam et par là pécheurs. Et alors, combien il est remarquable de voir l'amour divin se déployer dans une grâce merveilleuse afin de mettre à l'abri ce peuple qui, selon les promesses faites au Père, devait appartenir à l'Éternel et posséder le pays de la promesse. Et comment Dieu ainsi, sans déroger à ce qu'il est en lui-même, a pu mettre ce peuple à l'abri du jugement. C'est ce que nous voyons là, dans ce merveilleux chapitre, par cet agneau mis en garde, égorgé, au temps convenable, et dont le sang devait être mis sur les poteaux et sur le linteau des portes, mettant ainsi ce qui était dans la maison à l'abri du jugement. Et pour nous, chers rachetés, combien cela parle à nos cœurs. Le déploiement de l'amour divin envers nous, sa créature pécheresse, pour nous amener dans sa présence, et cela par le sacrifice, non plus d'un agneau mâle sans défaut, mais par celui dont il était le type, l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu lui-même. Cet agneau préconnu dès avant la fondation du monde, sans défaut et sans tache, mis en garde, mais au temps convenable, immolé sur la croix du calvaire. Et ainsi, dans ce que représente la Pâque pour nous, nous voyons comment nous avons été délivrés du jugement que nous avions mérité, non point par quelque mérite que nous puissions avoir, mais sur la seule efficace du sang de Christ répandu. Et la sécurité du peuple était dans ce que l'Éternel leur fait dire par Moïse, « Je verrai le sang et je passerai par-dessus. » Pour nous, notre délivrance assurée par le témoignage rendu par Dieu lui-même à l'œuvre de son bien-aimé. Et ainsi, nous verrons au cours de notre étude développer ces vérités précieuses qui font maintenant le bonheur de nos cœurs. Tout ce qui concerne cet agneau, son œuvre accomplie, mais aussi ce qui concerne ce que nous avons, l'attitude que nous avons à avoir, ce peuple se nourrissant de l'agneau immolé, entièrement rôti au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Tout ce dont cela parle à nos cœurs et à nos consciences, dans l'attitude qui convient, mangerez à la hâte vos reins sains, vos sandales à vos pieds, le bâton à votre main. Car c'était un peuple et qui allait prendre le départ. Quelles merveilleuses vérités sont là placées devant nous, dans ces instructions données par l'Éternel à Moïse. Puissions-nous les retenir dans nos cœurs, afin qu'aussi nos affections pour la personne du bien-aimé soient affermies, soit enrichi et que ainsi nous désirions lui demeurer attachés de tout notre cœur. Nous avons parlé de ces grands fêtes qui concernent l'histoire d'Israël, c'est donc la Pâque. Ensuite, c'est la mer Rouge. Ensuite, ce sera le Jourdain. Mais le fondement de toutes ces fêtes reste, c'est l'agneau immolé, qui nous parle en effet de la croix de Christ, avec les divers aspects dévoilés dans ces fêtes, combien nos cœurs ne sont ainsi engagés à retenir ces choses. Puissions-nous être saisis par ces précieuses vérités qui nous sont révélées dans ce chapitre, afin que la personne du bien-aimé soit toujours plus précieuse à nos cœurs de rachetés. La pensée de Dieu était d'avoir un peuple pour lui-même. Dans le prophète Ésaïe, nous connaissons tous ce verset, « J'ai formé ce peuple pour moi-même. Ils raconteront ma louange. » C'était un peuple sauvé par l'Éternel pour le louer, pour célébrer son nom, pour raconter sa gloire. C'était un peuple choisi, un peuple élu selon l'élection de la grâce divine, non pas parce qu'il était plus nombreux que les peuples de la terre, mais parce que l'Éternel l'a aimé, est-il dit dans le Deutéronome. Il l'a choisi, il l'a aimé et il l'a racheté. Nous faisons tous partie d'un peuple nouveau, d'un peuple racheté, d'un peuple choisi par Dieu pour sa louange. Au jour d'aujourd'hui, l'apôtre Pierre nous le confirme, nous qui n'étions pas un peuple. Et c'est pourquoi l'enseignement de ce chapitre est très précieux pour nous, parce que toutes ces choses qui sont écrites là sont des figures, des types qui nous parlent d'une façon précise de ce que Christ est pour nous, et de ce que nous sommes aussi pour lui, et de ce que nous devons être pour lui maintenant. En tant qu'individu, chacun racheté par le sang précieux de Christ, en tant qu'assemblée aussi, parce qu'il est question de l'assemblée ici, l'assemblée d'Israël à plusieurs reprises. Ainsi donc, nous pourrons envisager des choses tant sur le plan individuel que sur le plan de l'assemblée tout entière, de l'assemblée de Dieu. Le rachat du pays d'Égypte, du pays de l'esclavage, s'effectuait dans deux phases bien précises. Pour nous, une seule, l'œuvre de Christ à la croix. Et pour ce peuple, d'abord, le jugement exercé, comme nous l'avons rappelé tout de suite, sur tous ceux qui étaient coupables, tant Égyptiens qu'Israélites. Pour les Égyptiens, le jugement a frappé chaque maison. Pour les Israélites, le jugement a été symboliquement porté par l'agneau offert, sacrifié. Pour nous tous donc, le jugement de Dieu est tombé sur lui. Il a pris sur lui l'iniquité de nous tous et il l'a porté devant Dieu. Le jugement de Dieu qui devait nous atteindre. Et puis il y a la mort, il y a aussi celui qui a le pouvoir de la mort parce que nous étions asservis à ce dur esclavage, nous aussi, et nous avons aussi été délivrés du joug de l'ennemi. Et c'est à la croix de Christ que cela s'est passé. Nous avons en figure, donc, comme notre frère vient de nous le rappeler, la mer Rouge qui suit le jugement des premiers-nés dans le pays d'Égypte, la mer Rouge où l'ennemi a été englouti. C'est là que Christ est mort pour nous symboliquement et que nous pouvons ainsi, parce que Il a souffert pour nous parce qu'il est mort pour nous, nous trouver de l'autre côté de la mer traversée en pouvant chanter les louanges de Dieu, libérés entièrement du joug de l'ennemi qui a été précipité dans la mer, le pharaon, ses armées et tous ceux qui montaient ses chevaux ont été engloutis dans la mer Rouge. Et pour nous, nous savons qu'à la croix donc, si Christ, notre Seigneur, a porté le jugement pour nous, le jugement de Dieu qui devait nous atteindre, il a aussi triomphé de l'ennemi. Comme nous le rappelle en particulier, nous ne citerons qu'un verset, en Colossiens 2, verset 15, « Ayant dépouillé les principautés et les autorités, il les a produites en public, triomphant d'elles en la croix. » Triomphant d'elles en la croix. L'ennemi est vaincu, la mort est vaincue, celui qui a vaincu l'ennemi est celui qui maintenant est mort et a été ressuscité, celui qui a dans les mains les clés de la mort et du Hadès, celui qui triomphe. Et nous sommes plus que vainqueurs avec lui, nous sommes de l'autre côté de la mort, sur le terrain de la résurrection. Cela fait un tout, nous n'envisagerons bien entendu que la première phase de ce triomphe. Nous avons là dans notre chapitre ce que Christ a enduré pour nous sur la croix, c'est-à-dire le jugement de Dieu dû au péché. Il a porté nos péchés en son corps sur le bois. Il a été le véritable agneau de la Pâque. Comme nous le rappelle la première épître aux Corinthiens au chapitre 5e, notre Pâque, Christ, a été sacrifié. Et c'est pourquoi tous les enseignements de ce chapitre peuvent aussi être repris pour nous à notre compte, parce que celui qui a été sur la croix était véritablement l'agneau de Dieu.
À la création, quand tout est sorti parfait des mains de Dieu, Dieu était en droit d'attendre une louange de cette création. Mais le péché de l'homme a ruiné cette création. Dieu a été frustré de la gloire qui lui revenait dans la création. Le péché aux yeux de Dieu est une chose horrible. Et rien dans cette création ne pouvait revendiquer la gloire de Dieu. Alors Dieu avait par devers lui ce conseil éternel de l'agneau qui serait immolé. Dieu n'a pas habité depuis le péché de l'homme au jardin d'Éden sur la terre. Il ne le fera que quand la rédemption sera accomplie. Il désire être avec son peuple et nous avons devant nous les premiers éléments, comme nous venons de le rappeler, de ce que Dieu accomplit. Néanmoins, ce n'est pas la première fois que Dieu va tirer des âmes à lui au moment où le jugement va s'accomplir sur la terre. Nous voyons au moment où Noé a été pris à part par Dieu, au moment où Dieu lui-même va intervenir en jugement sur la terre tout entière, au moment où la malédiction va tomber sur la création, eh bien Dieu met de côté Noé et sa famille, une construction d'une arche. Et nous voyons que quand Noé et tous ceux qui devaient être sauvés sont dans l'arche, Dieu ferme la porte derrière Noé. Et ceux qui sont dans l'arche sont à l'abri. Il y a eu aussi Sodome et Gomorre. Lot a été tiré avec quelques-uns de sa famille. Et maintenant nous avons devant nous ce peuple d'Israël, choisi, aimé de Dieu, que Dieu va mettre à l'abri du sang. Merveilleuse grâce.
Ce mois-ci sera pour vous le commencement des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Nous sommes placés en présence de ce qui constitue un point de départ. Les pensées de Dieu sont de toute éternité. Et il les développe, les déploie dans la personne de Christ, dans la personne du bien-aimé. Et la manière dont l'agneau nous est présenté ici, nous le verrons dans le verset suivant, montre effectivement que c'est l'agneau de Dieu préconnu dès avant la fondation du monde et manifesté au temps convenable. Nous sommes là en présence de l'éternité et de tout ce grand déploiement des pensées de Dieu à l'égard de son Fils. Mais il est dit ici, et par deux fois c'est répété, ce mois-ci sera pour vous le commencement des mois, le premier des mois de l'année. C'est une ère nouvelle. On dit l'histoire antérieure ne compte plus, comme dit un de ceux qui, nos frères qui ont écrit sur ces passages. La rédemption constitue le premier pas dans la vie réelle pour l'homme. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Il faut ce point de départ et cette communication de ce qui est entièrement nouveau et qui laisse dans l'oubli tout ce qui a précédé. Le commencement des mois, le premier des mois de l'année. Dieu a voulu marquer là, dans la perspective de la venue et de la mort de son Fils, ce qui est l'origine de toute bénédiction pour l'homme, de la vie elle-même. Et il y a quelque chose là qui doit nous arrêter, effectivement. Quand nous considérons ce passage, nous avons fait allusion aussi à ça dans nos prières. Nous avons là la base même sur laquelle des hommes qui étaient autrefois dans leur péché sont amenés à Dieu et mis à l'abri du jugement et placés sur un terrain nouveau. Sans cela, nous n'avons rien. Et nous devons voir cela bien clairement placé devant nos cœurs et devant nos consciences. Si quelqu'un n'a pas part à l'œuvre de Christ et au sang versé à la croix, eh bien, il n'est pas encore au commencement. Mais justement, le temps présent est encore ce temps de la grâce dans lequel chacun peut commencer, entrer dans la vie. Y a-t-il quelqu'un qui resterait en arrière, justement, pour ne pas connaître ce commencement? Et nous comprenons que dans la pensée de Dieu, dans le déroulement de ses pensées, de son conseil, de ses voies à l'égard des hommes, eh bien, tout trouve ainsi sa une origine, d'une part dans les pensées éternelles de Dieu, mais quant à leur déploiement sur la terre, dans la personne même de celui qui est venu et qui s'est livré pour nous. On a remarqué aussi tout à l'heure que Dieu était intervenu à plusieurs reprises pour faire échapper des hommes au jugement et les appeler. Noé, Lot, pense aussi à l'appel d'Abraham. Il y a ici quelque chose de particulier, c'est que dans le verset 3, il nous dit « Parlez à toute l'assemblée d'Israël ». Il y a un côté tout à fait individuel, et nous le verrons justement dans ce chapitre, mise à l'abri du sang. Mais en même temps, nous voyons d'emblée que ce que les fils d'Israël devaient faire, ils devaient le faire ensemble. Et la parole est adressée à l'assemblée d'Israël. Il y a là, en même temps que la base du salut pour toute âme, on peut dire l'acte de naissance du peuple d'Israël. Et il y a quelque chose là qui nous parle aussi d'une manière toute spéciale en figure de l'œuvre de Christ dans laquelle nous trouvons à la fois la base du salut pour toute âme d'homme qui croit en lui et en même temps la base même sur laquelle l'assemblée est formée. Elle sera formée plus tard par la descente du Saint-Esprit, mais c'est dans l'œuvre de Christ que se trouve la base qui a été placée.
Présentée par la Pâque, nous serons amenés à considérer au moins trois côtés différents. Et il est bon peut-être de les mentionner au début de nos réunions. Il y a le premier point, c'est ce dont nous venons de parler, c'est la position du croyant, la mise à l'abri par le sang de Christ. La deuxième, c'est la nourriture que nous trouvons également. Et la troisième, c'est notre attitude, notre témoignage, figuré par le vêtement, par les rinçons, les sandales, le bâton à la main. Et nous pouvons peut-être en ajouter une troisième, c'est aussi le mémorial. Et toutes ces choses sont là placées devant nous, mais qui prennent une signification toute particulière dans l'œuvre de Christ, dans laquelle nous nous trouvons par grâce maintenant. Ces divers côtés de l'œuvre de Christ sont tous aussi précieux à considérer les uns après les autres.
Notre frère a insisté sur le détail du premier mois, du premier jour. Nous rappelons qu'il y a 7 passages dans l'Écriture qui parlent de ce premier mois, premier jour. Nous en citerons que 3. Un qui est important, c'est celui dont nous avons fait allusion dans la Genèse tout à l'heure. Dans l'histoire de Noé, il nous est dit « L'an 601, au premier mois, le premier jour du mois, les eaux furent séchées de dessus la terre. » Donc un ordre nouveau de choses est établi. Ici, dans notre chapitre de l'Exode, et encore au chapitre 40, lors de la construction du tabernacle, au premier mois, le premier jour du mois, tu dresseras le tabernacle de la tente d'assignation et tu y placeras l'arche du témoignage. Et un autre bien important aussi, c'est dans 2 Chroniques 29, quand Ézéchias sanctifie la maison, verset 17, ils commencèrent la sanctification le premier jour du premier mois. On est encore dans Esdras, c'est dans Ézéchiel. Comme pour montrer combien Dieu est attentif à ce que toutes choses soient faites nouvelles. Les choses vieilles sont passées, toutes choses sont faites nouvelles.
Il est donc très important de s'arrêter sur ce commencement. Cela doit réveiller la conscience de chacun ici. Est-ce que nous sommes tous conscients d'avoir un jour commencé? On ne peut pas toujours situer le jour du mois, peut-être même pas le mois de l'année, mais il faut avoir la certitude que tout a commencé pour nous. Le commencement pour un croyant, c'est la nouvelle naissance. C'est le moment où il est à l'abri du sang de Christ. C'est un racheté. Il faut que nous en ayons tous conscience. Pour que ce chapitre parle à nos cœurs, il faut d'abord que nos consciences soient à l'aise. Il faut que nous soyons devant Dieu comme ceux qui lui appartiennent, comme ceux qui sont nés de Dieu, qui sont enfants de Dieu. Il n'y a rien à apprendre sans être passé par là. La parole n'a rien à nous dire avant que nous ayons commencé. D'abord, elle parle à notre conscience. L'Esprit Saint opère pour la conversion, pour la repentance, pour la rémission des péchés par la repentance et la conversion. Il faut être passé par la porte. On ne peut pas saisir ce que signifie ainsi l'agneau offert et toutes les prescriptions qui sont ajoutées, qui sont très importantes pour nous, nous allons les détailler. On ne peut pas comprendre la signification de ces choses sans que l'opération de l'Esprit de Dieu ait d'abord renouvelé notre âme afin que nous soyons nés de nouveau, que nous soyons régénérés et ensuite pour nous enseigner dans ces choses. C'est pourquoi la chrétienté professante et parmi elles donc tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau ne peuvent saisir les enseignements typiques de cette parole
parce que l'Esprit Saint ne peut en aucune manière les enseigner. C'est pourquoi il est très important d'avoir cette conscience, chacun de nous ici, que nous sommes sauvés, que nous sommes lavés dans le sang de l'agneau. C'est très important cela. Toute la parole est basée sur cet enseignement-là. Le sang de l'agneau, nous le trouvons dès le début et jusqu'à la fin. Nous le trouvons depuis Abel jusqu'à la fin de l'Apocalypse. Et ce sang de l'agneau, c'est ce qui ressort de la parole de Dieu tout entière. C'est l'enseignement fondamental. Les hommes religieux veulent renverser cela, veulent faire passer beaucoup d'autres choses avant le sang de l'agneau, se basant sur un amour divin qui usera de miséricorde envers tous les hommes. Ces enseignements-là, nous les connaissons. Non. La parole de Dieu commence par éveiller la conscience et dire « Où en êtes-vous vis-à-vis de l'agneau de Dieu, de mon Fils que je n'ai pas épargné pour vous? Avez-vous cru en la vertu de ce sang versé pour laver vos péchés ?» C'est la première des choses, c'est l'essentiel, tout le reste suit, mais il n'y a rien avant. Alors donc, il faut nous interroger pour savoir si nous avons commencé. Et si nous avons commencé, il faut continuer. Il ne faut pas s'arrêter là. Beaucoup trop de croyants authentiques se contentent de rester là au commencement, comme on dit au pied de la croix, ayant peut-être la conscience d'avoir été lavé dans le sang de l'agneau, mais ne comprenant pas qu'il faut rappeler ces choses, il faut les enseigner dans les familles, dans les maisons, et il faut s'en souvenir d'une façon heureuse, dans un mémorial continu. Le peuple d'Israël devait célébrer la Pâque chaque année, et ils devaient le faire en tant qu'assemblée, non pas dans leur maison comme la première fois, mais là où l'Éternel voulait faire habiter son nom. Il y avait un lieu particulier où ce mémorial devait être rappelé. Le mémorial de l'offrande de l'agneau de la Pâque pour délivrer le peuple du pays d'Égypte. C'était une nuit à garder, comme nous l'avons lu au verset 42e, une nuit à garder. C'est quelque chose de perpétuel que les fils d'Israël devaient garder continuellement. Ce jour de la délivrance, ce mémorial du sang versé, de l'agneau offert et du sang versé qui les avait mis à l'abri du jugement. Et ce que nous observons, nous aussi, dans la manière dont le Seigneur a institué cette scène qui est pour nous ce que la Pâque était pour les Israélites. Maintenant, notre Pâque a été sacrifiée et nous pouvons célébrer la fête des pains sans levain, mais nous avons aussi la scène du Seigneur qui est le mémorial pour nous du sacrifice offert et du sang versé et de celui qui l'a offert. Maintenant, nous connaissons celui-là. Ce n'est pas un mémorial simplement à une œuvre, mais un mémorial au nom du Seigneur, en mémoire de moi. Et c'est pourquoi tout cela doit toucher nos cœurs profondément. Savoir si nous avons véritablement commencé, et dans ce cas-là, nous sommes admis à célébrer ce mémorial comme le Seigneur l'a voulu et l'a fort désiré. Nous savons que la Pâque, nous trouvons la célébration de la Pâque au moins 7 fois dans la parole. Pour les fils d'Israël ici, d'abord à la sortie du pays d'Égypte, et puis dans le désert en nombre 9, nous sommes aussi des pèlerins, des étrangers sur la terre, et nous avons à rappeler que nous sommes partis en vue du pays céleste, et que dans le chemin, nous nous souvenons de ce qu'il a souffert pour que nous puissions ainsi être délivrés de l'esclavage du pays d'Égypte et pour ainsi nous rendre vers ce lieu du repos, là où l'agneau immolé sera célébré durant l'éternité. C'est un côté des choses, c'est la Pâque dans le désert. Il y avait la Pâque dans le pays ensuite, en Josué 5, et là nous sommes aussi entrés dans le pays par la foi. Nous sommes dans les lieux célestes, assis là. C'est là notre place, c'est là que nous contemplons l'agneau dans la gloire, c'est là que nous pouvons parler de lui après l'avoir contemplé. C'est là la substance de notre louange parce que nous le voyons, parce que nous le considérons par la foi. La louange est empreinte ainsi de la contemplation d'un agneau immolé. Elle sera toujours ainsi, éternellement ainsi. Voilà donc, à la sortie du pays d'Égypte, dans le désert, dans le pays, les trois premières célébrations de la Pâque. Et puis, il y a trois autres célébrations assez touchantes, puisqu'il s'agit là comme d'un résidu du peuple qui, dans des temps de réveil, a pu célébrer la Pâque du temps d'Ézéchias, du temps de Josias, du temps d'Esdras. Là, nous voyons donc
non pas tout le peuple, mais ceux qui restaient, qui avaient à cœur de le faire, mais qui étaient l'expression du peuple tout entier, tout Israël et tout Juda, est-il dit à chaque fois. Tous ceux-là s'étaient purifiés pour célébrer la Pâque. Les premières fois, peut-être pas pour le premier mois, mais pour le deuxième mois, mais dans Esdras, tous s'étaient rendus purs dès le premier mois. Et nous voyons là l'expression de l'Assemblée de Dieu tout entière, pouvant célébrer cette Pâque dans l'esprit de celui qui l'avait institué, selon tous les commandements, selon toutes les ordonnances, en particulier dans du temps de Josias, nous trouvons à plusieurs reprises dans le chapitre que tout a été fait selon le commandement de l'Éternel, selon l'ordonnance. C'est très important cela. Comme la parole l'avait prescrit, en obéissance à la parole, c'est ainsi que nous avons à nous rassembler, c'est ainsi que nous avons à célébrer les gloires de l'agneau, c'est ainsi que nous avons à prendre la scène comme le Seigneur l'a institué. Tout cela est selon l'obéissance à la parole de Dieu. Et dans un temps de faiblesse, dans un temps où nous ne sommes peut-être que deux ou trois quelquefois, mais l'expression de l'Assemblée de Dieu tout entière, l'expression de tout le peuple de Dieu. Et alors, la septième fois, c'est la Pâque célébrée par le Seigneur lui-même. J'ai fort désiré manger cette Pâque avec vous avant que je souffre. Et il l'a mangée une dernière fois, le jour ou la nuit qu'il fut livré, la nuit où il a institué alors ce repas qui est pour nous maintenant, le repas, la scène du Seigneur.
Pourrions lire ce verset 12 encore. Je passerai par le pays d'Égypte cette nuit-là et je frapperai tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis l'homme jusqu'aux bêtes, et j'exercerai des jugements sur tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Et particulièrement encore ce verset 13, et le sang vous sera pour signe sur les maisons où vous serez. Et je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous. Qu'est-ce qui faisait la paix, qui donnait la paix dans chaque famille israélite? C'était le fait d'avoir mis le sang sur les linteaux et le poteau de la porte. Mais comme on nous l'a fait remarquer souvent, la famille israélite réunie pour manger l'agneau ne voyait pas le sang. Mais qu'est-ce qui a porté la paix dans cette maison? C'est ce verset 13. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Il se peut que nous croyants, surtout pour le dire pour nous-mêmes quand nous étions jeunes, on nous a toujours enseigné cette vérité précieuse, c'est qu'il ne faut pas regarder à nous, il nous faut regarder à Dieu. C'est Dieu qui voit le sang. Quelquefois, nous pouvons douter de notre salut. Mais regardons à Dieu. Dieu voit le sang sur nous. Le sang de Christ. Le sang de son précieux agneau, sans défaut et sans tache, comme nous dit Pierre. Quelle paix alors cela nous procure? Parce que quant à ce qui nous concerne, nous pouvons avoir des jours plus ou moins, nous sommes quelquefois plus ou moins certains de notre salut. Cela arrive particulièrement quand on est jeune, mais cela peut arriver encore plus tard. Eh bien, regardons à ce que Dieu a été satisfait. Dieu a vu le sang et la plaie de destruction n'est pas entrée dans la maison des Israélites. Quelle grâce de la part de Dieu! Nous pouvons bien le bénir, le louer de tout notre cœur.
Romains 5, verset 12. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Hébreux 9 aussi, il est réservé aux hommes de mourir, et après cela, le jugement. Si les hommes avaient conscience de ce qui leur est réservé, ils reculeraient d'horreur. Dieu ne passe pas à la légère sur le péché. Il a les yeux trop purs pour même voir le péché. Quand il le voit, il le juge. Quelle est la mesure du péché de l'homme ? la nécessité de la mort de Christ. Rien moins que cela. Et quand le péché et nos péchés sont portés par le Fils de Dieu comme homme, Dieu le frappe. Voilà la mesure du péché à ses yeux. Une éternité de jugement, le châtiment d'une destruction éternelle, l'étang de feu, la seconde mort. Voilà les termes, quelques-uns des termes que l'Écriture emploie pour toucher la conscience des hommes. Il est réservé aux hommes de mourir et après cela, le jugement. Tourmenté au siècle des siècles. Dieu ne peut pas passer à la légère sur le péché de l'homme. Il a fallu l'offrande de Christ, le sang précieux de l'agneau. L'homme, comme notre frère l'a dit tout à l'heure, essaie de trouver dans l'amour de Dieu, dans la bonté de Dieu, toutes sortes de raisons pour que Dieu passe à la légère sur le péché. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de verset de l'Écriture, nous pouvons le dire, qui aura fourvoyé autant d'âmes que ce verset pris isolément. Dieu est amour. Oui, Dieu est amour, c'est vrai. Mais Dieu est lumière. Dieu est lumière. Nous ne pouvons pas ne pas tenir compte de cet autre verset. Et Dieu a manifesté sa justice inexorable dans la croix de Christ. Là, nous avons toute la mesure, seule mesure, de la sainteté de Dieu. Mais Dieu, s'il ne peut rien laisser passer, s'il tient compte de tout, même les pensées oiseuses de l'homme reviendront en mémoire. Eh bien, pour ainsi dire, Dieu se donne lui-même. Il donne son unique Fils bien-aimé. Voilà la mesure de la justice, la mesure de la vérité, mais la mesure de la grâce, tout est à la croix.
Il nous est ainsi présenté dans ce chapitre 12, c'est la solution selon laquelle Dieu peut, selon l'expression que nous avons au chapitre précédent, au verset, cela a été déjà indiqué, au verset 7, l'Éternel distingue entre les Égyptiens et Israël. L'Épître aux Romains nous dit qu'il n'y a pas de différence, tous ont péché. Comment Dieu peut-il donc concilier sa justice et son amour et faire grâce et justifier ? De Dieu juste et sauveur, il n'y en a point, si ce n'est moi, dit le prophète. Et la solution, la seule solution par laquelle Dieu peut distinguer entre les uns et les autres, c'est par le sacrifice, par l'agneau dont il s'est lui-même pourvu. Dieu se pourvoira. Si, lorsque le Seigneur portait nos péchés sur la croix, s'il a été abandonné, il ne faut pas s'attendre à un autre traitement. Si quelqu'un demeure dans ses péchés, il ne peut pas s'attendre de la part d'un Dieu juste et saint à un autre traitement. Il sera abandonné. Mais ce sacrifice offert sur la croix, c'est là le moyen souverain, le moyen du Dieu d'amour, le moyen du Dieu de grâce, par lequel il peut rester juste en justifiant celui qui est de la foi de Jésus. C'est quelque chose qui est, c'est une justice qui est sur tous. Elle est accessible à tous, mais elle n'est qu'envers ceux qui sont de la foi. Elle est envers tous, mais elle est sur ceux qui sont de la foi de Jésus.
d'insister sur ce que vient de dire notre frère, en remarquant que exactement cette même expression « distinguer » se trouve en Exode 9 de la part de Dieu concernant les troupeaux mêmes des fils d'Israël. Exode 9, verset 4, la page précédente nous dit « Et l'Éternel distinguera entre les troupeaux des Israélites et les troupeaux des Égyptiens, virgule, et rien ne mourra de tout ce qui est aux fils d'Israël. » Donc Dieu fait ressortir cette distinction même entre ce qui appartient au peuple de Dieu. Quelle grâce de Dieu, quelle chose merveilleuse.
Peut-être frappé par la manière dont Dieu s'adresse à Moïse et à Aaron et par eux à toute l'assemblée d'Israël pour leur parler de cet agneau, de sa mise à part. En effet, on voit qu'il s'adresse à toute l'assemblée d'Israël. En même temps, il va parler d'un agneau par maison, chaque maison. Et pourtant, lorsque il s'agit de le sacrifier, il est dit toute l'assemblée, toute la congrégation de l'assemblée d'Israël l'égorgera entrée de soir, comme s'il n'y avait qu'un seul agneau. N'avons-nous pas là un exemple parmi bien d'autres où les choses nous sont présentées de deux côtés? Il y a le côté de Dieu, et puis il y a le côté de l'homme, de la part de Dieu. Dieu voit son agneau. Et en même temps, toute l'assemblée à l'égard de cet agneau, un seul. Et de l'autre côté, il voit aussi ce que sont les hommes et les plusieurs, et leurs besoins, les, faut dire, contingences présentes. Alors là, il les voit effectivement rassemblés par maison. Et il y a même des indications qui sont données de telle sorte que aucun prétexte ne puisse être invoqué pour manquer de l'agneau. Si la maison était trop peu nombreuse, eh bien, qu'il se rassemble. Si quelqu'un était tout seul, il pouvait se joindre à une maison proche de la sienne. Vous pouvez le prendre d'entre les moutons ou d'entre les chèvres. Si quelqu'un manquait de l'un ou l'autre, il y avait toujours une ressource. Et ainsi, chaque maison pouvait être rassemblée autour de un agneau mis à part, mais pour Dieu, c'était l'agneau. Et toute la congrégation de l'Assemblée d'Israël l'égorgera entre les deux soirs. Nous trouverions des passages, des enseignements semblables justement dans le Nouveau Testament à l'égard de l'Assemblée, tel que le Seigneur la considère dans son ensemble, et puis qu'il la considère aussi dans le rassemblement local, avec les privilèges qui s'y rattachent. Mais Dieu voit toujours les choses qu'il a faites dans leur unité, dans leur ensemble. Il y a d'ailleurs ici deux expressions, deux mots, justement dans cette expression, la congrégation de l'assemblée, deux mots différents, qui dans notre version sont à peu près uniformément rendus, deux mots originaux de la même manière, et le traducteur fait remarquer que dans le mot assemblée, justement, il faut voir davantage l'assemblée comme considérée comme un tout, comme une personne morale, comme un corps. Alors que dans l'expression la congrégation, c'est plutôt le rassemblement effectif des hommes, des fils d'Israël en un lieu donné.
Ainsi donc, pour Dieu, il n'y a qu'un agneau, et pour nous aussi. Nous voyons beaucoup de sacrifices offerts dans la parole, mais un seul était dans la vision divine. Un seul est l'antitype, celui qui a été offert au temps convenable. Nous sommes frappés par le fait que il s'agit de maison d'Israël. L'assemblée d'Israël était formée de ceux qui habitaient dans des maisons. Dieu considère les maisons. C'est évident que le sacrifice est offert pour chaque individu. Mais si la parole nous parle de maison, c'est pour notre instruction. Qu'est-ce qui se passe dans nos maisons? L'assemblée locale ici est formée de maisons de croyants où il y a de la lumière et où tous sont placés sous le signe de l'agneau immolé. Il est frappant, notre frère a fait remarquer ce qui distinguait les enfants d'Israël des Égyptiens. Il y avait aussi, à plusieurs reprises, ils ont été épargnés des plaies qui tombaient sur les Égyptiens. Et une est assez caractéristique, c'est qu'il y avait d'épaisses ténèbres un jour sur le pays d'Égypte, mais il est écrit, chapitre 10, verset 23, « Pour tous les fils d'Israël, il y eut de la lumière dans leurs habitations. » Ces maisons d'Israël avaient de la lumière pour eux, alors qu'il y avait des ténèbres dans toutes les autres habitations. Et cela doit être aussi dans nos maisons. Il doit y avoir cette lumière, afin que ceux qui entrent dans la maison voient la lumière. Il faut qu'il y ait là un témoignage que Dieu habite dans cette maison, que le Seigneur veut y demeurer et qu'il doit y avoir pour lui une place, la première. Et que il y a cette place pour lui, parce que nous avons le sentiment dans la maison qu'il a été sacrifié pour nous, pour tous ceux qui habitent dans la maison, les parents, les enfants. Dans toute la parole, dans toute l'écriture, nous trouvons cela. Toi et ta maison. Qui est-ce qui est entré dans l'arche? Noé et sa maison. Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, est-il dit à Noé. Entre dans l'arche. Nous savons ce qui est devenu Cam, mais toute la maison était à l'abri dans l'arche. Parce que Dieu l'a voulu ainsi, la maison a suivi le chef de famille dans sa foi, dans sa piété. La maison tout entière a été sauvée. Et nous trouvons ce principe, nous pourrions trouver cela pour Abraham par exemple. Il est dit, je connais Abraham parce qu'il enseignera ses fils et sa maison après lui dans toutes ces choses que je viens de lui dévoiler. Un enseignement donné pour les fils, pour la maison d'Abraham. Et nous pourrions parcourir toute l'écriture, que ce soit la faveur de Dieu sur les maisons des croyants, que ce soit aussi les jugements de Dieu sur les maisons des incrédules ou des impies ou des rebelles. Les maisons suivent ce qu'est le chef de la maison, ce qu'est le chef de famille. Et cela est très important pour nous. Qu'a-t-il dit au geôlier de Philippe dans ce remarquable verset qui est un symbole même de l'Évangile, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison, et ta maison. » Quelle importance nos maisons, à nous, chefs de famille, quelle importance devant Dieu, quelle responsabilité aussi, quel privilège, quelle faveur de pouvoir ainsi glorifier Dieu dans sa maison et ensuite de pouvoir par là même le glorifier dans l'assemblée. Parce que la louange de l'assemblée est exactement à la mesure de la louange dans les maisons, ni plus ni moins. Si nous voulons connaître ce qui se passe dans nos maisons, eh bien mesurons la louange, le ton de la louange dans l'assemblée. Nous aurons exactement la reproduction de ce qu'elle est dans nos maisons. C'est pourquoi la chose est très importante. Il faut savoir que l'agneau devait être sacrifié dans chaque maison et que là, tous étaient au bénéfice du sang versé. Le sang était placé non pas sur les individus, mais sur les portes d'entrée, sur le linteau, sur la maison elle-même, sur la maison elle-même, sur les poteaux, sur le linteau de la porte. Le destructeur ne pouvait pas entrer dans la maison. Tous étaient à l'abri du sang. Avons-nous mis nos maisons à l'abri du sang? Avons-nous, nous, chefs de famille, ce désir profond de mettre à l'abri du sang tous ceux qui sont dans la maison? Nos enfants sont saints. Les enfants des parents de croyance sont sanctifiés précisément par la foi des parents. Et cela va jusqu'à ce qu'ils prennent leurs propres responsabilités. Nos enfants sont saints. Ils sont là dans la maison à l'abri du sang. C'est très précieux cela. C'est très précieux. Mais il y a un enseignement qui doit être donné dans nos maisons. Et sur les poteaux des maisons des fils d'Israël, il devait être écrit, quoi donc, la parole de Dieu. Il y avait eu le sang, là, placé sur le poteau, mais nous voyons en Deutéronome 6 que la parole de Dieu devait être aussi inscrite sur les poteaux des maisons. C'est un enseignement qui doit suivre ainsi cet enseignement initial et fondamental du sang versé et de la vertu de ce sang versé. Il y a toute la parole de Dieu, tous les commandements de Dieu, d'Israël, devaient être inscrits, devaient être lus en famille, devaient être appliqués dans une conduite qui accréditait cette parole dans les maisons. Et puis, ces paroles devaient être inscrites sur les poteaux des maisons et puis aussi sur les portes. Deutéronome 6, verset 9. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et nous lisons dans la note, porte des villes ou des enclos. Sur les portes de la ville, là où s'exerçait l'autorité, la magistrature, là où se tenaient les anciens, nous comprenons bien la signification pour nous que cette parole écrite dans nos maisons est écrite aussi sur les portes de l'assemblée, sur les portes de tous ceux qui se réunissent là, comme se réunissait le peuple aux portes de la ville. Il y a là donc ce qui fait autorité, cette parole de Dieu. Elle ne peut faire autorité que dans la mesure où elle a été enseignée dans les maisons, qu'elle a été inscrite sur les poteaux des maisons. Elle est inscrite sur les poteaux du maison parce que le sang est là, parce que le sang a été placé là et que toute sa vertu peut donner un sens à la vie de ceux qui sont ainsi sauvés, lavés dans le sang, ceux qui peuvent ainsi obéir à la parole. On ne peut pas obéir à la parole avant d'avoir le sang versé, appliqué à nos âmes, avant d'être entré par la porte. On ne peut pas obéir au commandement de Dieu, on ne peut pas obéir à la parole, on ne peut pas la comprendre même. C'est donc une suite, une succession de choses qui doivent aussi se passer maintenant dans nos maisons, afin que Dieu soit glorifié dans nos maisons comme il l'est aussi, comme il doit l'être dans l'assemblée.
Nous y pense à cette merveilleuse parole de Josué 24 qui, à la fin de sa vie, fidèle, celui qui avait introduit le peuple dans le pays de la promesse, peut dire, lorsqu'il va partir, quitter ce monde, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quelle sainte et énergique décision de cet homme de Dieu remarquable, qui est un type du Seigneur, bien sûr.
Il y a une autre histoire dans l'Écriture qui est touchante. C'est celle de Rahab dans Josué. On lit au chapitre 2 de Josué de quelle manière Rahab reçoit les espions envoyés par Josué. Elle plaide pour elle-même, pour sa maison. Et les deux hommes lui répondent « Tu mettras un cordon de fil écarlate à la fenêtre. » Est-ce que cela ne nous rappelle pas le sang de Christ, être à l'abri du sang? Et les hommes se portent garants pour elle, pour tous ceux qui seront dans sa maison, et seulement pour ceux qui seront dans sa maison. Ils disent au verset 19, « Il arrivera que quiconque sortira hors des portes de ta maison, son sang sera sur sa tête, et nous serons quittes. » Mais quiconque sera avec toi dans la maison, son sang sera sur notre tête si on met la main sur lui. La maison de Rahab était sur la muraille. La muraille de Jéricho allait s'écrouler. Combien cela est significatif. Et nous voyons un peu plus loin dans cette histoire, sans vouloir la considérer tout à fait, nous voyons que au chapitre 6, verset 23 ou 22 même, Josué dit aux deux hommes, « Entrez dans la maison de la prostituée, faites en sortir la femme et tous ceux qui sont à elle, comme vous le lui avez juré. » Et les jeunes hommes, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui étaient à elle. Ils firent sortir toutes les familles des siens et ils les laissèrent en dehors du camp d'Israël et ils brûlèrent par le feu la ville et tout ce qui était.
Alors nous sommes arrêtés par cette expression, donc vous aurez un agneau sans défaut, mâle âgé d'un an. Sans défaut, c'est ce qui nous est rappelé à l'égard de chacun des sacrifices qui devaient être offerts dans le début du Lévitique, pour l'Holocauste, pour le sacrifice de prospérité, pour les sacrifices pour le péché, sans défaut. Au parfait. Et encore, le type est bien au-dessous de celui qu'il représente. Lui seul dont il est dit qu'il s'est offert lui-même à Dieu sans tache. Et Pierre nous dit un agneau sans défaut et sans tache. Le seul au sujet duquel ces deux expressions soient réunies. Et il dit aussi qu'il se présentera à l'Assemblée, lui-même n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable. Mais quant à lui, l'agneau sans défaut et sans tache. Ô bien-aimé, combien pouvons-nous rappeler l'un à l'autre et rappeler à ceux qui nous suivent d'une manière toute spéciale l'insistance avec laquelle la parole souligne la perfection absolue de celui que Dieu a envoyé dans ce monde. L'homme Christ Jésus, Dieu manifesté en chair sur la terre, vrai homme, né de femme, mais sans péché. Il n'y a pas de péché en lui. On rappelle fréquemment les différentes expressions qui soulignent ainsi ce caractère quant à sa personne bénie. Il n'y a pas de péché en lui, c'est dans la première épître de Jean. Il a été en toutes choses comme nous, à part le péché. Et puis, Pierre nous dit, il n'a pas commis de péché. Et combien d'autres expressions qui soulignent ce caractère de sainteté absolue, celui qui n'a pas connu le péché, de Corinthiens 5. Il l'a fait péché. Et c'est précisément, justement, la pensée qu'il a dû se charger de nos péchés et être fait péché de la part de Dieu pour nous. Il est si important que nous arrêtions avec attention et que nous retenions de toute notre âme cette vérité si importante quant à sa personne bénie, dans un temps où l'on parle si légèrement de la personne de Christ, pour ne pas parler de blasphème qui si facilement s'étale dans ce monde à son sujet. Il est le seul, l'unique, venu dans ce monde qui a participé à la nature humaine, mais qui n'a pas connu le péché. Combien ce qui nous est dit ainsi et la réalité à l'égard de la personne du Fils dépasse, veut dire l'expression que nous trouvons ici même à l'égard de l'agneau sans défaut. Mâle, âgé d'un an. Cela nous parle de sa plénitude, de sa force et de sa jeunesse. Mais on voit aussi en même temps combien, on peut dire, c'est antérieur, son existence tout à fait antérieure au commencement dont il est parlé. Il devait être mis en jour le 10e jour du mois, mais il était âgé d'un an. Il y avait un nécessaire commencement ici pour cet agneau, mais ça nous parle de celui qui est toute éternité auprès de Dieu, mais qui au temps convenable a dû être manifesté pour accomplir l'œuvre que Dieu, le Père, lui a donné à faire.
En nombre 19, dans un complément de La génisse rousse au verset 2, centaure, qui n'ait aucun défaut corporel et qui n'ait point porté le joug. Et la génisse de Deutéronome 21, au verset 3, une génisse qui n'a pas servi et qui n'a pas tiré au joug. Il n'y avait en Christ aucun asservissement au péché. Né de l'Esprit Saint, loin de l'Esprit Saint, le type parfait de celui qui était pur. Le Seigneur pouvait dire à ses disciples, le chef de ce monde vient et il n'a rien en moi. Vous pouvez dire aux Juifs aussi, qui me convaincra de pécher? Nous avons là, par ces déclarations de l'Écriture, ce qui nous manifeste la pureté, la sainteté, la séparation de celui qui a été la victime. Comment comprendre ou exprimer d'une manière plus explicite d'être sans péché que le fait de porter le péché? Autrement dit, comment aurait-il pu porter nos péchés et nos iniquités s'il n'y avait pas eu cette pureté ineffable et inaltérable dans la personne de Christ?
Verset 26 qui nous dit qu'un tel souverain sacrificateur nous convenait, saint, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs et maintenant élevé plus haut que les cieux. Quel détail dans ce verset.
Dans cette expression, pris d'entre les moutons ou d'entre les chèvres, outre le fait déjà signalé qui marque la condescendance de Dieu pour qu'il n'y ait aucune excuse pour les maisons d'Israël, l'agneau devait être, la victime devait être prise d'entre les moutons, et cela nous reporte à Ésaïe 53, l'agneau qui a été obéissant jusqu'à la mort, mais pris aussi d'entre les chèvres, cette parfaite séparation du mal et cette consécration à Dieu que le passage d'Hébreu souligne, pris d'entre les moutons ou d'entre les chèvres.
Que Dieu se serve de la femme de Pilate pour dire « Je n'ai rien à faire avec ce juste ». Et Pilate lui-même dira « Je suis innocent du sang de ce juste ». Et nous connaissons les expressions aussi de Pilate qui peut dire « Je n'ai rien trouvé en lui qui soit digne de mort ». Et un peu plus loin, le brigand, on connaît bien aussi cette expression « Celui-ci n'a rien fait qui ne s'est dû faire ». Autant de témoignages là, dans des moments uniques, n'est-ce pas, qui mettent en évidence la sainteté et la parfaite innocence de Christ.
Et nos propres offrandes doivent être à l'image précisément de l'offrande de Christ lui-même. Dans le prophète Malachie, l'Éternel reproche à son peuple de lui offrir, de souiller sa table en lui offrant des bêtes aveugles ou boiteuses ou malades. Nous avons à prendre garde à mesurer toute la perfection de l'offrande de Christ pour que, à cette image-là, nous puissions aussi offrir des sacrifices spirituels qui soient agréables et qui soient précisément la représentation de ce qu'a été cette offrande parfaite. plus nous considérerons les gloires, les beautés, la perfection de l'agneau de Dieu, plus nos offrandes aussi pourront être dans spirituel, agréable à Dieu. Nous savons que nous avons auprès de Dieu un sacrificateur qui offre cela pour nous, et dans la perfection de ce qu'il est maintenant, non seulement dans la perfection de ce qu'il a été lorsqu'il s'est offert lui-même, mais dans la perfection de ce qu'il est maintenant. Comme notre frère vient de le souligner, un sacrificateur qui nous convenait, saint, innocent, sans souillure, comme il l'a été au moment du sacrifice. Voilà ce pourquoi nous pouvons offrir des sacrifices agréables, des sacrifices qui soient ainsi purifiés. Mais nous ne pouvons le faire donc que en le considérant, en considérant ce qu'est cet agneau sans défaut et sans tache. Il y avait une mise en garde là de 4 jours, du 10e jour au 14e jour du mois. Assurément, celui qui s'est offert à Dieu sans tache a été vu de son peuple pendant un temps suffisant pour qu'il puisse considérer toutes les perfections de sa personne. Il était celui qui était venu du ciel, tout en contraste avec ceux qui sont sur la terre. Il était lui seul, pur et sans tache, venu du ciel, au-dessus de tous, la gloire de Dieu au milieu des hommes, l'envoyé du Père, tout brillait en lui, la gloire de Dieu. Nous vîmes sa gloire, une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père. Et c'est ainsi que son peuple aurait dû le considérer, c'est ainsi que nous le considérons aujourd'hui lorsque nous le voyons marcher. Lorsque nous le voyons marcher, nous voyons l'agneau de Dieu. Jean peut, en regardant l'agneau qui marchait, Jésus qui marchait, il peut dire « voilà l'agneau de Dieu ». Il y avait là, dans la marche du Seigneur Jésus, la marque qu'il pouvait et qu'il devait être l'agneau de Dieu, qu'il avait toutes les qualités requises pour cela. Et cette marche se dirigeait précisément vers le lieu du sacrifice. L'agneau, Jésus qui marchait, voilà l'agneau de Dieu. Voilà, toutes les gloires de Dieu dans celui qui va vers le lieu du sacrifice pour s'offrir à Dieu sans tache. Jean l'a vu dans sa marche, dans la manière dont il marchait. Et nous devons aussi le considérer dans la manière dont il marchait, dont il a marché ainsi pendant ces 3 ans et demi de son ministère. Il est bien évident que sous l'œil de Dieu, tout était préconnu. Il était manifesté devant son Dieu depuis toujours, mais il fallait qu'il soit aussi manifesté devant les hommes, manifesté à la fin des temps pour nous, est-il écrit, pour que nous le considérions comme il est vraiment, l'agneau de Dieu véritable, sans défaut et sans tache. Et c'est pendant ce temps-là, donc, qu'il a manifesté toutes les gloires de Dieu dans sa personne, qu'il était bien celui que Dieu avait choisi pour le jour du sacrifice. L'agneau de Dieu, Jésus qui marchait. Et alors, il a été là, égorgé, il devait être l'agneau égorgé entre les deux soirs, au coucher du soleil. Au coucher du soleil, est-il dit ailleurs, je crois dans Deutéronome 16. Il y avait ainsi, à la fin du jour, celui qui devait s'offrir, un jour qui avait été le jour de l'épreuve de l'homme, une longue journée, où Dieu avait essayé tous les moyens pour voir si l'homme pouvait ainsi se tenir devant lui, pouvait s'approcher de lui. Impossible, impossible. Il a fallu qu'à la fin de ce jour-là de l'épreuve de l'homme, à la fin de ces jours-là, Dieu nous a parlé dans le Fils. Il l'a envoyé pour nous parler, et pour nous parler en particulier par son sacrifice. C'est une façon pour Dieu de parler au cœur et à la conscience de l'homme plus pénétrante qu'aucun langage. Le langage du Fils qu'il n'a pas épargné, mais qu'il a donné. Le langage de l'amour de Dieu, mais le langage aussi de la sainteté de Dieu qui ne pouvait passer par-dessus le péché et qu'il a fait porter par l'agneau qui seul pouvait ôter le péché du monde. C'était celui que Dieu avait choisi pour cela, pour ôter cette offense qui durait pendant ce jour si long de l'épreuve de l'homme, une offense continuelle devant les yeux du Dieu saint, qui ne pouvait pas être effacée autrement que par le sang de l'agneau de Dieu. Voilà, il était là pour ôter le péché du monde. Et il l'a fait. Et cela sera manifesté un jour. Le monde sera purifié parce que le sang a été versé. Il faut aussi que les jugements s'exercent, mais la rédemption de la possession acquise, c'est par le sang de l'agneau. il ôte le péché du monde. C'est peut-être la première chose qui comptait pour Dieu, que ce péché du monde fût ôté de devant ses yeux. N'y eut-il aucun pécheur racheté, n'y eut-il aucun parvenant au salut de Dieu, Dieu aurait été glorifié dans l'offrande de l'agneau, parce que le péché aurait été ôté de devant ses yeux. C'est la première des choses. C'est le côté de Dieu, cela. Mais le côté de l'amour de Dieu aussi, c'était qu'il voulait avoir plusieurs fils dans la gloire, qu'il voulait avoir un peuple racheté, qu'il voulait habiter là, au milieu de son peuple, pour sa louange. Tout cela fait un tout parfait, mais la première des choses, c'est d'ôter cette offense continuelle de devant ses yeux, le péché du monde.
A écrit en ce qui concerne cette expression entre les deux soirs que c'était la période qui s'étend entre le coucher du soleil et la fin du crépuscule. Est-ce qu'on ne peut pas voir là une allusion aussi à ce verset de la fin des évangiles où il nous est dit que de la sixième heure il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à la neuvième heure?
Il a subi le jugement de Dieu de la sixième à la neuvième heure pendant les heures de ténèbres, et c'est à l'issue de cette neuvième heure qu'il est entré dans la mort.
À l'égard de la nature du Seigneur comme homme, nous aimerions préciser que le Seigneur n'a pas pris la nature de Adam innocent, ni bien sûr celle d'Adam pécheur. Mais dans sa nature comme homme, il était saint, et il a été seul dans cette nature. Il convient de bien préciser cet aspect de Jésus-homme, l'homme-Christ-Jésus. Il était né de l'Esprit-Saint, lui seul était né de femme. De lui seul, on pouvait dire, la semence de la femme. Il n'y avait en lui aucun soupçon de cette nature de péché qui est dans l'homme. Il est fondamental de retenir cette sainteté tout à fait particulière et pure de Christ, de telle sorte qu'il n'était en aucune manière assujetti à la mort. Et c'est pourquoi lui seul, lui-même, pouvait donner sa vie. Lui seul pouvait le faire. Lui seul pouvait entrer dans la mort parce qu'il n'y était pas assujetti. C'est un point doctrinal qui est bien important aujourd'hui de retenir fermement à l'égard de cette caractéristique de la nature du Seigneur, connaissant parfaitement le bien et le mal, mais entièrement séparé du mal.
Et il en résulte que Jésus venant dans le monde ne venait en aucune manière s'unir aux hommes. Ça découle directement ce que notre frère vient de dire. Il n'y avait aucun lien possible entre Christ, homme venant sur la terre, et puis les hommes dans leur état d'enfant d'Adam. Et il fallait qu'il se charge de nos péchés, qu'il entre dans la mort, pour qu'alors des hommes puissent trouver la vie par lui, et sortir de la mort avec lui par la résurrection d'entre les morts. C'est de cette manière que des hommes croyants en Christ sont maintenant liés à lui. À moins que le grain de blé tombant en terre ne meure, il demeure seul, entièrement seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et c'est ainsi de près à ce que on a déjà considéré dans ce chapitre concernant le commencement pour tout croyant. Combien effectivement dans le temps présent on tendrait à représenter Christ comme un homme sans doute exceptionnel, mais venant dans le monde et ayant toutes sortes de relations avec les hommes. Et cela cache devant les yeux des hommes ce fait qu'il est le Fils unique du Père, le seul sans péché, et qui a dû mourir pour que nous ayons la vie. Oh, combien effectivement il importe que tous nos jeunes qui sont ici se pénètrent de ces vérités de base, vraiment concernant la personne même de Christ, de telle sorte que nous ne nous laissions pas entraîner de quelque manière que ce soit. Et il n'y a rien comme cela. La considération de la personne de Christ, dans son excellence, dans sa pureté absolue, comme homme, comme aussi dans le fait qu'il est Dieu manifesté en chair, le Fils unique, le Fils éternel et l'objet éternel des délices du Père, qui nous préservera d'avoir dans notre pensée, dans nos paroles, la moindre légèreté à l'égard de Christ.
Ce que vient de dire notre frère est très important. Comment présentons-nous la personne de Christ? Comment est-il présenté dans ceux qui se parent de son nom, ceux qui s'appellent des chrétiens, de Christ? Il était bien prescrit au verset 46 que la Pâque sera mangée dans une même maison, tu n'emporteras point de sa chair hors de la maison et vous n'en casserez pas un os. Tu n'emporteras pas de sa chair hors de la maison. Il était prescrit aussi de ne pas sortir des maisons. Au moment où le jugement passait, il fallait être dans la maison. Verset 22, « Nul d'entre vous ne sortira de la porte de sa maison jusqu'au matin. Il fallait être placé à l'abri du sang. Et il fallait, pour manger la chair, être aussi à l'abri du sang. On ne peut pas manger la chair hors de la maison. » Il fallait là être à l'abri du sang. On veut présenter un Christ comme effectivement quelqu'un qui est mort en martyr, comme quelqu'un qui a apporté au monde une morale extraordinaire et qui doit être suivi avec mérite et qui a apporté un enseignement que nous devons garder. Nous devons le considérer comme celui qui a souffert, qui est mort et qui a pour cela certainement glorifier Dieu, mais où est le sang dans cela? Où est la vertu du sang versé? Où est le sang qui efface le péché? C'est cela qui compte. On ne peut pas porter la chair hors de la maison. Un Christ mort ne peut être mangé qu'à l'abri du sang, que dans la maison. On ne doit pas en emporter au dehors. On doit parler de celui qui s'est offert lui-même à Dieu sans tâche, comme celui qui nous a lavé dans son sang. C'est par là qu'il faut commencer lorsque l'évangile est présenté. C'est ce fondement absolu de toute chose. La personne, la valeur de la personne, de celui qui s'est offert, et aussi la vertu du sang versé, le sang précieux de Christ, nous dit l'apôtre Pierre. Hors de la maison, point de chair à manger, c'est interdit. Dieu ne permettait pas cela. Dieu ne le permet toujours pas. Il veut que nous parlions de son Fils bien-aimé comme d'abord de celui qui est mort pour nous, dont le sang a été versé pour nous purifier, pour nous laver, pour que nous puissions paraître devant la face de Dieu et pour que nous puissions aussi parler de lui comme il convient. On ne peut pas parler de Christ comme il convient si l'on n'est pas à l'abri du sang placé sur les poteaux et sur le linteau de la porte. Et alors là, si nous avons véritablement cet esprit-là, en mangeant l'agneau, nous pouvons le faire comme il convient. Nous verrons que celui qui s'est offert à Dieu sans tâche, c'est celui dont aucun os n'a été brisé. Vous n'en casserez pas un os. Eh bien, cela a été parfaitement appliqué à la personne de celui qui s'offrait. Il s'est offert et pas un de ses os n'a été brisé. Les os des brigands ont été brisés, mais pas les os du Seigneur Jésus. Et dans le chapitre 19 de l'Évangile selon Jean, ce verset 47 a été cité, il est cité, c'est le seul verset d'ailleurs de ce chapitre qui est cité dans le Nouveau Testament. Cela montre, entre parenthèses, l'importance de la chose. Pas un de ces os ne sera cassé, vous n'en casserez pas un os. Le Seigneur Jésus a été maintenu dans l'intégrité de son corps, dans lequel il endurait la souffrance devant son Dieu. Il a porté nos péchés dans son corps qui n'a pas été brisé, mais qui a été le support de ce péché qu'il portait ainsi à notre place. Et ce corps a été préservé par Dieu aussi, enseveli avec le riche dans sa mort, est-il dit, Dieu a pris soin du corps de son Fils. Ce corps qu'il avait formé lui-même, tu m'as formé un corps. Dieu l'a préservé jusqu'au bout. Les hommes ont fait tout ce que Dieu a permis qu'ils fassent. Ils l'ont cloué à la croix, ils l'ont profané, ils l'ont percé le côté, ils ont percé ses mains et ses pieds, tout cela était écrit, mais ils n'ont pas brisé un os. Voilà la valeur de ce corps formé par Dieu pour le jour du sacrifice, le corps de l'agneau de Dieu. Et alors, c'était celui aussi, donc, nous voyons qu'il fallait manger ainsi de l'agneau, comme celui qui était rôti au feu, verset 9, la tête et les jambes et l'intérieur, montrant par là toutes les souffrances qu'il a endurées. Les souffrances, la tête, le siège de l'âme. Il a livré son âme à la mort, il a livré son corps en sacrifice pour le péché, il a livré son âme à la mort, est-il écrit en Ésaïe 53. Il a livré son âme en sacrifice pour le péché, il l'a livré à la mort. La tête, les souffrances indicibles de notre Seigneur Jésus dans son âme, lorsqu'ainsi il s'offrait à Dieu sans tâche, nous ne pouvons sonder ce qu'a été la douleur de son âme, ce qu'a été celui qui a été broyé, brisé au-dedans de lui, parce qu'il se présentait devant le Dieu juge. Les jambes, celui qui avait marché parfaitement à la gloire de Dieu, celui qui avait souffert dans sa marche, mais c'était une marche d'obéissance qui le conduisait à la mort, et le dernier pas, c'était précisément celui qui l'a conduit vers le lieu du sacrifice. Les jambes, la souffrance de notre Seigneur Jésus dans une marche d'obéissance jusqu'à la mort, et à la mort de la croix, est-il précisé, à la mort de la croix. C'est là que ses jambes, ses pieds ont été percés. Les souffrances de notre Seigneur et l'intérieur, tout ce qu'il y avait dans ses affections profondes pour son Dieu, sa loi qui était au-dedans de ses entrailles, son désir, sa volonté, sa viande qui n'était que de faire la volonté de Dieu, tout ce qui était le bon plaisir de Dieu, toutes les délices du cœur de Dieu, il les accomplissait continuellement. Voilà l'intérieur de l'agneau, voilà ce qui le conduisait vers le lieu du sacrifice, voilà ce qui a été éprouvé. Tu m'as éprouvé au creuset, tu n'as rien prouvé. Ma pensée ne va pas au-delà de ma parole, psaume 16 ou 17 je crois. Sondé jusqu'à l'intérieur par le feu divin, tu n'as rien trouvé lorsque tu m'as éprouvé au creuset. Quelle gloire pour Dieu, que la gloire de l'agneau de Dieu. Quelle gloire pour son Dieu, la tête, les jambes, l'intérieur. Nous mangeons cela, nous présentons à Dieu ce sacrifice dans nos louanges. Mais c'est Dieu seul qui peut sonder tout cela. C'est pour lui, c'est son agneau à lui, c'est l'agneau de Dieu. Nous voyons souvent à notre côté l'agneau de Dieu pour nous, mais l'agneau de Dieu pour lui d'abord. C'est cela qu'il faut considérer, ce qu'il a été pour son Dieu. Et c'est là la substance la plus élevée de la louange. Et nous comprenons qu'il faille manger d'un tel agneau avec des pains sans levain, des herbes amères. Des pains sans levain, c'est ce qui symbolise la personne même de notre Seigneur. Il a été, lui, le pain. Ceci est mon corps, lorsqu'il présente le pain rompu, mon corps donné pour vous. Le pain, c'est celui qui a pris un corps pour nous, celui dont Dieu a formé un corps. Il est devenu un homme, il a été trouvé en figure comme un homme, c'est le pain. Mais un pain sans levain, encore une fois, sans aucune tâche, sans aucun péché, sans aucun défaut, il était tout pour Dieu, il était véritablement le Saint de Dieu. Et c'est pour cela qu'il nous convient de manger maintenant des pains sans levain, nous aussi, dans la pureté de notre marche, parce que lui a été cela, et parce que nous devons être cela à cause de lui. Nous parlerons de la fête des pains sans levain cet après-midi peut-être, mais déjà maintenant nous avons ce pain sans levain comme représentant sa personne pure et sainte et sans tache. Et les herbes amères, tout ce qu'il a souffert, toute l'amertume de son âme, il a été soumis à la mort, il a soumis son âme à la mort, il l'a livré à la mort, il a goûté la mort pour tout, il l'a goûté dans une saveur amère, dans tout ce qu'il avait d'amer pour lui. Lui qui ne la méritait pas, lui qui était sans péché, lui qui était la vie qu'il avait en lui-même et qui la manifestait. Il est passé par la mort, il a connu ce chemin douloureux, toute l'amertume de la mort, il l'a goûté pour nous tous, il l'a goûté pour tout ce qui sera racheté par son sang précieux, pour tout ce qui sera réconcilié avec Dieu à cause de cela. pour le monde entier, mais d'abord pour nous. Il a goûté ses herbes amères et nous avons à les goûter aussi avec lui lorsque nous mangeons l'agneau rôti au feu. Nous devons sentir ce que nous avons coûté à cause de notre péché à notre Sauveur, à celui qui a été ainsi crucifié pour nous. Les herbes amères conviennent toujours dans la louange. Tout ce qui était du fond de nous-mêmes, du fond du cœur de l'homme, de sa misère, mais aussi de sa turpitude, de son impiété, de tout ce qu'il a supporté à notre place, autant convenable, il est mort pour des impies. Les herbes amères conviennent toujours, avec les pains sans levain, pour manger de l'agneau rôti.
Précieux aussi de considérer un petit détail sur la porte. C'est sur la porte au singulier, des maisons au pluriel, que le sang devait être épreint, répandu. Ce qui nous parle sans doute du Seigneur Jésus dont Jean 10 nous dit qu'il est la porte des brebis. Il n'y en avait pas d'autre. Il n'y a pas d'autre nom qui soit donné aux hommes par lequel il nous faille être sauvés. Il n'y avait qu'une porte dans l'arche. Il n'y a qu'une porte de salut. Et un jour, la porte sera fermé. Sommes-nous tous à l'abri, à l'intérieur? Sommes-nous entrés par Jésus? Sommes-nous à lui pour le temps et pour l'éternité? Que chacun puisse répondre affirmativement à cette question.
Il est remarquable que dans ce chapitre qui nous parle de la Pâque en rapport avec Israël, la mention de la fin du chapitre nous montre qu'il y avait là aussi une provision pour l'étranger. Il y aura une même loi pour l'Israélite de naissance et pour l'étranger qui séjourne parmi vous. C'est d'autant plus remarquable que dans tout l'Ancien Testament, on voit justement combien le peuple était mis à part, séparé, mais il y avait cependant un moyen de s'approcher pour l'étranger, mais il fallait passer par la porte, par le commencement, et participer ainsi à la Pâque, en même temps qu'après la circoncision. Dans les versets 7 et 8, nous avons ces deux côtés qui ont déjà été signalés. Il y a le sang, et la mise à l'abri du sang, et puis il y a la nourriture, dont on nous a déjà parlé. Quand on se nourrissait de l'agneau pascal dans la maison pendant la nuit à l'abri du sang. Et nos frères autrefois ont beaucoup insisté sur ces deux côtés, et en particulier justement, bien sûr, sur le premier, de cette sorte que chacun soit bien établi sur ce fondement du sang versé, je verrai le sang, mais ajoutant ensuite, il ne faut pas oublier le second. Et peut-être, disait-il, plusieurs sont-ils enclins à oublier le second côté, se nourrir de l'agneau. Et le Seigneur Jésus lui-même se présente comme étant le pain vivant descendu du ciel qui nous est donné pour nourriture. Se nourrir de lui. C'est ce qui, il est l'auteur de notre salut, mais il est aussi celui qui entretient la vie, nos âmes, l'Esprit lui-même par la parole nous communiquant ce qui est de Christ. Il s'agit de nous approprier ce qu'il est, et spécialement dans ses souffrances et dans sa mort. Oh, nous ne pouvons que encourager beaucoup. Chacun d'entre nous, et tout spécialement nos jeunes à l'entrée de leur carrière, de se nourrir de la personne de Christ, de se nourrir de ces passages qui nous parlent de lui, de sa vie, de sa mort, de ses souffrances. Nombreux sont ceux d'entre nous qui se souviennent d'avoir médité ces choses et d'en avoir gardé une empreinte ineffaçable. On pense à des petits ouvrages qui sont courts et bien accessibles, comme la gloire morale de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et d'autres semblables, combien il vaut la peine, chers jeunes amis, de nous arrêter et de nous nourrir de lui. Et on voit que si ensuite nous allons considérer effectivement la fête des pains sans levain qui durait 7 jours et qui a une signification pour notre vie toute entière, il y a ici ce fait de se nourrir au moment même où on était mis à l'abri du sang. Et il y a aussi quelque chose de permanent pour nous sans doute. Mais insistons bien aimé, n'en restons pas justement au fait que on est à l'abri du sang. Ce serait l'estimer bien peu que d'oublier que l'agneau nous est donné ainsi pour nous en nourrir. Il y a tout un être intérieur nouveau communiqué par la vie divine. L'apôtre Jean emploie cette expression, c'est quelqu'un qui est né de Dieu, mais il faut que cette vie croisse et qu'elle soit entretenue et qu'elle soit nourrie justement de la personne même de Christ. Et combien nous avons besoin ici de nous arrêter et de considérer attentivement la personne de Christ et tout spécialement rôti au feu avec des pains sans levain, on vient de le souligner, et des herbes amères. Oh, chers jeunes amis, ce n'est pas, on l'a souvent rappelé aussi, premièrement la joie qui remplira le cœur d'une manière exubérante en considérant ces choses. Non. Au contraire, il y a ces herbes amères qui nous amènent à porter sur ce que je suis et qui a été l'occasion, non seulement l'occasion, mais qui entraîne nécessairement la mort et les souffrances de Christ. Il y a un jugement à porter sur ce que je suis qui s'accompagne de souffrances, de peines. Mais c'est une chose qui est utile. La repentance, chers amis, est quelque chose qui est nécessaire pour être amené au Seigneur et pour recevoir le salut qu'il donne et la paix qu'il a faite par son sang versé à la croix. Mais c'est un travail qui se continue, dans la mesure où il s'agit que nos cœurs soient amenés, nos pensées, en plein accord avec Dieu, à l'égard de ce qu'est l'homme, de ce qu'est mon cœur, de ce que je suis. Et cela ne peut pas se faire indépendamment de la considération d'une part de ce que Christ est dans sa perfection en contraste absolu avec ce que je suis par nature et d'autre part la considération des souffrances qui ont été sa part pour m'arracher à cette condition de péché. Que Dieu veuille produire dans nos cœurs cette réelle qu'il appelait cette componction, les cœurs traversés réellement par la pensée que Christ a dû souffrir, pour produire cette véritable et profonde repentance qui nous amène à saisir d'une manière plus réelle et complète la valeur du sacrifice que Christ a offert une fois pour toutes.
Romains 5 nous dit « Vous avez été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils et vous annoncez la mort du Seigneur. Il n'y a rien de plus précieux au cœur de Dieu que la mort de son Fils. Rien. Cette mort est toujours devant lui, toujours. L'efficace de cette mort, la valeur de son sang, la gloire et les droits de Dieu magnifiés par la mort de Christ. Tout cela est dans le cœur de Dieu. Que s'est-il passé dans le cœur de Dieu quand son jugement a atteint son propre fils.
sont des choses que nous devons peser devant Dieu. Nous sommes appelés à nous asseoir au bord du Jourdain, le fleuve de la mort. Il y avait les pierres qui étaient tirées du Jourdain, il y avait celles qui étaient mises au fond, mais il y avait celles qui étaient au bord. Nous souvenir de l'efficace, de la grandeur incomparable, de la mort du Fils unique. Tout cela est devant Dieu. Nous sommes appelés à nous souvenir que même sous le jugement, dans le sacrifice pour le péché, il y avait la graisse qui était offerte avec l'Holocauste. Cela nous dit que même quand le Seigneur était sous le jugement, il y avait cet aspect, cette volonté de glorifier Dieu, ce dévouement entier à la gloire de Dieu son Père, qui montait comme une odeur agréable à Dieu. Quelle perfection dans la mort de Christ! L'obéissance de Christ dans ce monde montait continuellement comme un parfum devant Dieu. Rien de l'offrande de lui-même n'était perdu, même si le monde n'y trouvait rien. Mais dans la mort de l'agneau, oh, quelle perfection pour Dieu, quelle gloire pour lui et quelle gloire pour Christ !